divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la Grande Loge de France. Une émission préparée et présentée par Perry Willet. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, dans la suite des émissions que nous avons consacrées aux grandes figures de la Grande Loge de France, nous allons évoquer ce dimanche matin Gustave Mesureur, un ancien grand maître du début du XXe siècle. Et pour cela, je reçois Jean Cédric. Bonjour Jean Cédric.
Bonjour Perry.
Et puis, vous êtes l'actuel président de la Loge qui porte le nom de Gustave Mesureur. Et vous êtes accompagné de Benoît. Bonjour Benoît.
Bonjour Perry.
Et vous avez été, il y a quelque temps, à votre tour, le président de cette loge. Alors, nous allons voir que Gustave Mesureur est un personnage important, à la fois dans notre obédience et dans la cité, frère éminent, avec de multiples engagements. Benoît, est-ce que vous pouvez nous parler de ses origines ?
Eh bien, il est originaire du nord de la France. Il est né à Marc-en-Barœul, près de Lille, en 1847, dans une famille de conditions modestes. Il monte assez jeune à Paris, à presque 20 ans, et il devient dessinateur de modèles de tissus. Il est syndicaliste, membre du syndicat des dessinateurs fondé par Eugène Potier. Il sera incorporé comme garde nationale dans l'armée improvisée qui défend Paris contre les Prussiens lors du siège de 1870. Après vient l'armistice, puis la Commune. Il n'y participe pas parce qu'il est plutôt réformateur que révolutionnaire. Il sera du côté des conciliateurs entre les Versaillais et les communards, à l'instar de Charles Floquet. Il sera élu premier édile de Paris en 1886, après que la ville ait gagné le droit d'élire son maire, qui pouvait jusqu'alors être directement nommé par le gouvernement, y compris en dehors du conseil municipal.
Mais il n'a pas fait que des actions politiques au niveau parisien, il a dû, vous pouvez nous le rappeler, une carrière politique au niveau national.
En effet, il a été élu député en 1887, il sera réélu député de la Seine à trois reprises, 1889, 1893 et 1898. Ce républicain ardent est un des fondateurs du Parti radical, dont il fut le premier président en 1901. Il a été aussi ministre de l'Industrie, du Commerce et des Postes en 1895 dans le cabinet de Léon Bourgeois, le père de la doctrine du solidarisme. En 1898, il est vice-président de la Chambre des députés, président de la Commission des Finances, puis il subira une défaite aux élections en 1902 et il s'éteint à l'âge de 78 ans, le 19 août 1925, le jour du transfert des cendres de Jean Jaurès au Panthéon.
Alors précisément, je crois qu'en 25, il était encore, dans cette année-là, grand maître de la Grande Loge de France. Mais Jean-Cédric, précisément, est-ce que vous pouvez nous rappeler son engagement maçonnique ? On reviendra tout à l'heure sur les activités dans la cité de Gustave Mesureur.
Gustave Mesureur a été initié assez jeune, à l'âge de 22 ans. Mmh. Et pour l'anecdote, c'était le jour même de son anniversaire, le 2 avril 1869. Il a d'ailleurs été initié en même temps que Jules Vallès, et tous deux, donc, dans la loge 133, la Justice.
Alors la justice, c'est une loge importante aussi pour la Grande Loge de France. Et nous avons consacré une émission entière sur cette loge, où il y avait à la fois des Versaillais et des communards. Ce qui me donne l'occasion de rappeler que toutes nos émissions, vous pouvez les podcaster sur le site de la Grande Loge de France. Jean-Cédric, je voudrais que vous continuiez à nous parler de Gustave Mesureur, le maçon. Mais quelles étaient ses motivations pour rentrer en maçonnerie ?
Bien, pour reprendre ses propres termes, puisqu'on a retrouvé dans les archives de la Grande Loge à la bibliothèque le procès-verbal de son initiation, au cours de laquelle il a déclaré venir, et je le cite, « chercher en maçonnerie un appui ». Il ajoute plus précisément « l'homme seul étant sans force, il espère que du groupement des individualités peut naître une force collective, niée jusqu'à présent par les individualités ». On voit que Gustave Mesureur s'inscrit ainsi dans la droite ligne de l'objectif que se donne toujours la franc-maçonnerie, et la Grande Loge de France en particulier, qui est la poursuite d'un idéal de perfectionnement moral, spirituel, intellectuel et matériel de l'humanité, et qui figure d'ailleurs à l'article 1er de nos constitutions.
Et donc toujours d'actualité. Mais Benoît, de votre côté, en préparant l'émission, vous m'avez dit que Gustave Mesuret est un maçon exemplaire. Qu'est-ce que ça veut dire, un maçon exemplaire? Pourquoi?
Il est exemplaire d'abord par la fidélité à son engagement maçonnique, 56 ans d'engagement jamais démenti. Ses nombreuses responsabilités politiques, son engagement dans la cité ne l'ont jamais dissuadé de remplir ses obligations maçonniques. Sa force de travail, son courage, son intégrité, son humilité, sa force de persuasion aussi et sa parole posée. Mesureur, c'est la mesure en personne, écrivit même un journaliste du Bon Journal. Toutes ces qualités ont forcé le respect de ses contemporains et de ses frères qui l'ont élu grand maître de la Grande Loge de France de 1903 à 1910, puis de 1911 à 1913 et en 1924 et 1925 jusqu'à son décès. Sous sa présidence, la Grande Loge de France a connu un développement très important. Elle est passée de 70 loges en 1903 à 144 en 1913 et de 4300 à 8400 membres en une seule décennie.
Ouais, j'imagine qu'après, l'hécatombe de la guerre de 14 a dû faire réduire les effectifs, si j'ose dire ce mot. Jean-Cédric, donc notre obédience lui doit beaucoup. Mais pouvez-nous détailler ce que l'on lui doit plus précisément?
Oui, on ne le sait pas forcément, mais c'est en particulier à Gustave Mesureur que notre obédience doit son organisation démocratique. Il a été parmi ceux qui ont le plus contribué à ce que notre obédience soit l'émanation du suffrage universel des maçons, pour reprendre une expression consacrée, et surtout que l'indépendance des loges soit garantie.
Et aujourd'hui, son héritage, précisément dans votre loge, Gustave Mesureur, quel est cet héritage? Comment vous le cultivez?
Pour nous, Gustave Mesureur demeure dans notre loge un exemple, un repère tout à fait pertinent, qu'on s'efforce de partager, de transmettre à chaque nouvel initié. À qui d'ailleurs, symboliquement, on remet, au moment de leur initiation, une médaille à son effigie, bien sûr, mais qui surtout porte sa devise, plutôt une parole de Gustave Mesureur. Je la lis. On entre en maçonnerie pour la servir, non pour s'en servir. Et dans l'esprit de Gustave Mesureur, servir, c'est aussi, à titre individuel, servir la société, agir dans la cité, ce qu'il a beaucoup fait, on le verra. Et sur ce point, je peux témoigner qu'on trouve dans notre loge la volonté de ne pas scinder, de ne pas dissocier complètement notre démarche maçonnique du souci des transformations et des difficultés que traverse notre société. Chez les plus jeunes en particulier, il y a une question qui revient souvent. Que pouvons-nous faire en nous, en tant que maçons? En particulier au regard de certains événements, des événements dramatiques comme l'assassinat de Samuel Paty, mais plus globalement, pour tout ce qui concerne les divisions dans la société, le recul des solidarités, la crise environnementale et bien sûr la crise sanitaire. En ce moment, c'est tout à fait ça qui nous préoccupe aussi.
Très bien, merci. Benoît, on va revenir sur son implication dans la cité. Des choses méconnues ont été initialisées par lui. Vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, on peut rappeler les très nombreuses réalisations dans la cité cette fois que l'on doit à Gustave Mesureur, qui non seulement ont marqué leur temps, mais perdurent encore jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, il inaugure la première bourse du travail à Paris, dans la droite ligne de son engagement syndical. Il se passionne pour des travaux de voirie, il étudie même des projets de métro. Il réorganise la Bibliothèque nationale, crée la bibliothèque Fornet, qui a pour spécialité les arts décoratifs, les beaux-arts, les arts graphiques, et qui est désormais abritée dans l'hôtel de Sens, dans le 4e arrondissement de Paris.
Donc, une importance donnée à ces institutions, c'est important compte tenu de l'actualité en ce moment. Donc, il faut peut-être le remercier de tout ce qu'il a fait.
Dans un autre domaine, après sa défaite aux élections, en tant que député, candidat, il a accepté de devenir le directeur de l'assistance publique de Paris et il va y consacrer 10 ans de sa vie, la transformer, la moderniser d'une manière exceptionnelle, en levant d'abord un emprunt de 45 millions or. Alors à son actif, on compte la création des nouveaux pavillons isolés contre la contagion, le nouvel hôpital Claude Bernard, Bichat, la Pitié inaugurée en 1911, la modernisation, la réhabilitation et la transformation de Cochin, la Hennec, la Salpêtrière en 1910, le développement de la radiothérapie à Saint-Louis, l'organisation des hôpitaux pour les blessés en 1914. Et cette liste de toutes ces réalisations n'est pas exhaustive.
Oui, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'organisation des hôpitaux, on voit bien à quel point c'est très important en ce moment, et donc il y avait des précurseurs. Je voulais dire que dans le dernier numéro de PBI, qui a pour thème principal l'engagement, on cite un certain nombre de personnalités, maçonnes ou non, qui se sont engagées. Est-ce que vous pouvez nous dire si le franc-maçon de la Grande Loge de France est un homme qui s'engage aujourd'hui dans les différentes sphères d'activité, dans sa loge et dans la cité?
Si nous cultivons la leçon de vie de Gustave Mesureur, le franc-maçon ne peut pas être seulement et uniquement un contemplatif qui se contenterait de vouloir le bien sans prendre le risque de l'action. Gustave Mesureur, de mon point de vue, incarne l'éthique de courage et de responsabilité sur laquelle est construite la franc-maçonnerie et qui invite chaque maçon à s'engager à titre personnel, de sa propre volonté et en conscience, en phase et en écho avec son inspiration spirituelle, dans la mise en œuvre de ses principes. Ce qui le conduit certes parfois au compromis.
Des compromis.
Oui, l'oblige à composer par rapport à l'idéal avec les intérêts en présence, sans jamais transiger toutefois sur la dignité des moyens mobilisés, ni sur les fins poursuivies.
Oui, mais vous disiez compromis, on ne fait pas de l'eau tiède quand même.
Ah non, Péri, tout sauf de l'eau tiède. Gustave Mesureur s'efforçait de concilier les contraires, de rassembler ce qui était part. S'il avait le courage de la nuance, il n'avait pas une âme tiède.
D'accord.
Albert Camus a écrit beaucoup plus tard, dans un très bel article du journal Combat, « Notre monde a besoin de cœurs brûlants qui sachent faire à la modération sa juste place ». Je crois pouvoir dire que Gustave Mesureur était un de ceux-là.
Ben, merci. Pour conclure et peut-être pour résumer le parcours de Gustave Mesureur, j'ai envie de citer un autre grand maître plus récent, Henri Tournoguès, qui écrivait en 1984 « Le franc-maçon n'appartient pas à un ordre qui se veut uniquement et seulement contemplatif, mais il veut être un homme d'action, un bâtisseur, et dans le cadre de la cité et de la société où il vit, un homme responsable qui s'efforce de traduire son idéal dans ses actes. » En 1984, ça correspondait à ce que faisait Gustave Mesureur, et ça correspond à ce que nous souhaitons être aujourd'hui en 2020, bientôt 2021. Donc l'engagement, c'est bien une constante pour le franc-maçon de la Grande Loge de France, et dans le dernier numéro de Point de vue initiatique, on évoque Pierre Brossolette, bien sûr, on aurait pu évoquer Gustave Mesureur, mais nous le faisons dans cette émission, et plus près de nous, Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération, et nous consacrerons une émission pour lui. Il y a autant d'exemples qui doivent nous inciter à savoir surmonter les difficultés, en tout état de cause, de ne jamais subir. Donc j'évoquais le dernier numéro de Point de vue initiatique sur l'engagement, et il y a un article particulier, on détaillera les autres, sur les francs-maçons et l'armée des ombres, avec un groupe de résistants pendant la dernière guerre qui s'appelait Patriam Recuperare, ce qui m'amène à rappeler aussi que la Grande Loge de France a sorti pour l'anniversaire du 15 décembre 1943 l'abolition des ordonnances qui éliminaient la franc-maçonnerie sous le régime de Pétain. Donc, grâce à l'intervention de Duménil de Gramont, un autre éminent grand maître de la Grande Loge de France, et d'autres, le général de Gaulle a donc décrété que toutes les ordonnances de Vichy étaient nulles et non avenues. Et donc, cet article rappelle la difficulté que les francs-maçons ont subie pendant cette purge. Et puis il y a d'autres articles sur l'engagement, et PVI, nous invitons toujours des contributeurs non-maçons. Il y a donc là, cette fois-ci, M. Odon Vallet, qui dit apporter les outils de la connaissance dans le monde qui nous entoure, et M. Fabrice Midal, qui lui parle d'une spiritualité nouvelle qui nous invite à vivre ici même. Encore une autre forme d'engagement. Alors, il y a d'autres formes d'engagement pour le maçon, c'est l'assiduité. Nous devons être présents dans nos réunions que nous appelons des tenues, en général deux fois par mois. Et il est clair que l'assiduité est importante. On ne peut pas faire de tenue à distance et donc pas de tenue en visio. Donc en ce moment, presque l'année a été une année blanche, une année hors norme. Il y a évidemment un article qui détaille qu'est-ce que c'est que l'engagement maçonnique aujourd'hui. Pour un jeune ou un moins jeune, comment aussi faire partager notre notre vision, la vision du monde dans lequel nous sommes, nous vivons. Alors, il y a une question qui est, quand travaille le maçon ? Alors ça, c'est intéressant parce que nous avons déjà eu sur différents réseaux sociaux la question « Ah, les francs-maçons travaillent ?» La réponse est oui. Alors évidemment, le résultat n'est peut-être pas visible parce qu'on voit bien que le monde qui nous entoure est un monde qui en ce moment est plus que morose. Mais nous contribuons par notre engagement à produire des idées et essayer de bâtir un homme meilleur pour un monde meilleur. C'est ce que nous croyons. Nous sommes des utopistes, mais les utopies viendront peut-être des réalités. Il suffit pour ça de s'engager et de travailler. Alors, il y a aussi des portraits d'initiés d'hommes qui se sont engagés. Je l'évoquais tout à l'heure, Pierre Brossolette. Chacun connaît la destinée fatale de Pierre Brossolette, qui a préféré se suicider plutôt que d'avouer tout ce qu'il savait sur les réseaux de la France à l'époque occupée. Un engagement qui va jusqu'au sacrifice personnel. Il y a aussi, évidemment, un article sur l'initiation. Un ultra trail, alors là c'est un frère qui nous donne sa vision de l'initiation, évidemment de façon très sportive. Et puis évidemment il y a toujours dans PVI des petits articles un peu impertinents qui montrent et qui veulent montrer que la Grande Loge de France est un organisme vivant, constitué de frères très divers, peu importe nos convictions politiques, dès lors qu'elles ne sont pas d'extrême, peu importe nos croyances ou nos croyances. Chacun se réunit dans son temple pour, encore une fois, essayer de s'engager comme l'a fait Gustave Mesureur, comme l'a fait Pierre Brossolette, comme le fait aujourd'hui encore Hubert Germain. Donc en effet, oui, redisons-le, autant d'exemples qui doivent nous inciter à surmonter les difficultés actuelles et, évidemment, je le répète, ne pas subir. Grand merci Benoît, grand merci Jean-Cédric d'avoir rappelé la mémoire de Gustave Mesureur.
Merci Perry.
Merci Perry et merci de nous avoir donné l'occasion d'évoquer sa mémoire et d'avoir convié notre loge à en parler.
Merci à Perry Legras pour la réalisation. Merci à Jean-Frédéric pour la technique. Et Claire Poinsignon, que nous remercions parce qu'elle anime le site web de cette émission « Divers aspects de la pensée contemporaine ». Donc, bon dimanche à tous et à toutes. Rendez-vous le 17 janvier. En attendant, passez de très bonnes fêtes. Et au-delà des soucis de la vie matérielle, eh bien, que la joie soit dans les cœurs.